4h47.
Chapitre 91. Le pécode rencontre le bouton de rose. C'est en vain que dans la panse de cette baleine, on eût cherché de l'ambre gris. L'infection ne permit pas même d'y penser. Sir T. Brown, E.P.
Une deux semaines s'étaient écoulées depuis la dernière scène de chasse décrite à notre navire, glissée lentement sur des eaux somnolentes dans la brume légère de midi, quand le nez du pécode, nombreux sur le pont, se révélèrent de plus fins dépisteurs que les trois paires d'yeux des vigies dans la mâture. Une odeur très particulière et fort peu agréable venait de la mer. Je parierais, dis-je, Tube, qu'il y a dans les parages quelques-uns de ces cachalots que nous avons chatouillés l'autre jour avec des harpons à drague. Je pensais bien qu'il n'allait pas tarder à se trouver la quille en l'air. Bientôt, les vapeurs s'écartèrent devant nous, découvrant à quelque distance un navire dont les voiles ferlées trahissaient, qui était amarré à son flanc un cétacé d'une espèce ou d'une autre. Nous vîmes en nous approchant que l'étranger arborait le pavillon français à son pic et le nuage tourbillonnant de vautours de la mer qui dessinait des cercles dans les airs avant de fondre. Attends. Enlève le son carrément. Nous vîmes, en nous approchant, que l'étranger arborait le pavillon français à son pic, et le nuage tourbillonnant de vautours de la mer, qui dessinait des cercles dans les airs avant de fondre sur l'animal, attestait qu'il s'agissait là de ce que les pêcheurs appellent une baleine soufrée, c'est-à-dire morte de mort naturelle, et qui flotte sur l'eau, cadavre sans propriétaire. On imagine sans mal quelle odeur nauséabonde pareille masse doit exhaler, pire que celle de la peste dans une cité assyrienne, quand les vivants ne parviennent plus à enterrer les morts. Certains la trouvent si intolérable que la cupidité, la plus féroce, ne saurait les convaincre d'amarrer la carcasse à leur bord. Il en est pourtant que n'y renonce pas, bien que l'huile tirée de ces individus soit de qualité très inférieure et que ces effluves se distinguent assez sensiblement de l'essence de rose. Une brise expirante nous rapprocha un peu plus du français et nous pûmes constater qu'il remorquait une seconde baleine, laquelle s'apparentait bien plus encore que la première a un bouquet odorifiant. Le gibier était bref, était bel et bien, l'un de ces cachalots douteux qu'une formidable dyspepsie ou indigestion semble condamner au dessèchement et à la mort, et dont la carcasse se révèle presque entièrement dépouillée de toute substance graisseuse. Néanmoins, nous verrons en temps voulu que nul pêcheur avisé ne s'éloignera dédaigneusement d'un tel animal, même s'il se fait une règle générale d'éviter les cachalots soufflés. Le pécode se trouvait maintenant si près de l'étranger que Stubb jura qu'il reconnaissait le manche de sa pelle à découper, pris dans les emmêlements des lignes autour de la queue d'un de ces cachalots. « Que voilà un aimable garçon » raya-t-il debout à l'avant, un vrai chacal. Je sais bien que ces grenouilles de français ne brillent guère à la pêche qu'ils mettent parfois à la mer pour des brisants qu'ils confondent avec des souffles de cachalots, et qu'il leur arrive aussi d'appareiller avec une cale pleine de chandelles, de suifs et de caisses d'éteignoir, prévoyant que toute l'huile qu'ils pourront récolter ne suffira pas à tremper la mèche de la lampe du capitaine. Oui, nous savons tout cela, mais attention, cette grenouille-ci se contente de nos reliefs. Un cachalot piqué à la drague. Oui, et se satisfait aussi de racler les os secs de cet autre poisson précieux qu'il a là. Pauvre diable, allons, faites passer un chapeau et qu'en toute charité, on lui fasse cadeau d'un peu d'huile. Car l'huile qu'il tirera de l'animal, personne n'en voudrait pour éclairer un cachot. Pas même la cellule d'un condamné à perpétuité. Quant à l'autre cachalot, je suis sûre que j'obtiendrai plus d'huile en débitant et en faisant fondre nos trois mâts que lui de son paquet d'os, quoique. Quand j'y pense maintenant, il se pourrait bien qu'il se trouve quelque chose d'infiniment plus précieux que de l'huile. Oui, de l'ambre gris. Je me demande si le vieux y a pensé. Cela vaudrait la peine d'essayer. Oui, allons-y. Sur ces mots, il se dirigea vers le gaillard d'arrière. La brise faible avait fait place à un calme plat, de sorte que le pécode, bien malgré lui, était maintenant bel et bien pris au piège de l'odeur et privé de tout espoir d'y échapper tant que le vent ne se lèverait pas à nouveau. Dès qu'il fut sorti de la cabine, Stubb rassembla l'équipage de sa baleinière et mit le cap sur l'étranger. En passant sous sa proue, il remarqua que, conformément au goût des Français pour les ouvrages de fantaisie, la partie supérieure de l'étrave portait une sculpture en forme de gigantesque tige inclinée, peinte en vert et munie en guise d'épine, de pointes de cuivre qui saillaient ici et là, le tout en terminant en un bourgeon d'un rouge vif aux pétales symétriquement repliés. Sur les bordages de poulaine, dessinés en hautes lettres d'or, il put lire « Bouton de rose ». Tel était le nom romantique de cet odorifiant vaisseau. Bien que Stubb ne comprît pas le sens du premier terme français de l'inscription, le mot « rose » et le bourgeon de la figure de proue, ajoutés l'un à l'autre, lui fournirent une explication suffisante. C'est donc un bouton de rose en bois, si je ne me trompe, s'écria-t-il en se pinçant le nez. Voilà qui convient parfaitement. Mais sacre bleu, quelle puanteur! Afin de pouvoir s'entretenir directement avec les marins du pont, il devait faire le tour de l'étrave et gagner le tribord du navire. Il avait donc à se trouver tout contre le cachalot soufflé et la conversation se déroulerait par-dessus la carcasse. Parvenu à cet endroit et se bouchant toujours les narines, il hurla. « Ohé, du bouton de rose, y a-t-il parmi vous des bourgeons qui parlent anglais ?»« Oui, » répondit au bastingage un marin de Guernesey, qui se révéla être le second. « Eh bien, bouton Bud, mon bouton, avez-vous vu la baleine blanche ?»« Baleine franche ?»« Blanche. La baleine blanche. Un cachalot. Moby Dick. L'avez-vous vu ?»« Jamais entendu parler d'une baleine pareille. Cachalot blanc ? Baleine blanche ? Non. Fort bien. » Adieu donc. Je reviens dans un instant. Son canot le ramena rapidement au pécode et, apercevant Ahab penché sur la hisse du gaillard d'arrière qui attendait son rapport, il mit ses mains en porte-voix et cria « Non, monsieur, non, non » Là-dessus, Ahab se retira et Stubb retourna auprès du Français. Il remarqua alors que l'homme de Guernesey, qui venait de grimper dans les portes au banc avec une pelle à découper, s'était maintenant enveloppé le nez dans une sorte de sac. « Eh, qu'est-il arrivé à votre nez ?» demanda Stubb. « Il est cassé ?»« Je voudrais bien, et je préférerais même ne pas en avoir du tout, » répondit le marin de Guernesey. Qui ne paraissait pas prendre un plaisir particulier au travail qu'il faisait. « Mais vous, pourquoi passez-vous le vôtre ?»« Oh, pour rien. Cette année en cire. C'est que je dois maintenant maintenir en place. Belle journée, n'est-ce pas? Et cet air. Pour un peu, on se croirait dans un jardin où l'on vient de déverser de l'engrais. Pourquoi ne nous envoyez-vous pas un petit bouquet de fleurs, Mister Bouton de Rose? Par tous les diables, que cherchez-vous donc ici? Rugit l'autre dans un brusque mouvement de colère. Oh, gardez votre sang-froid. Et à propos de fraîcheur, pourquoi n'emballez-vous pas ces baleines dans la glace tant que vous travaillez dessus? Mais blague à part, savez-vous bien, monsieur Bouton de Rose Bud, qu'il est parfaitement absurde d'essayer de tirer de l'huile de ces baleines? Quant à cet individu desséché, là, sa carcasse tout entière n'en donnera pas un canon. Je le sais fort bien, mais voyez-vous, le capitaine n'en croit rien. C'est sa première croisière, il était fabricant d'eau de Cologne auparavant. Mais montez donc à bord, il vous croira peut-être, vous, plus facilement que moi, et je pourrai ainsi me libérer de cette sale corvée. Je ferai tout pour vous obliger, mon doux et charmant ami, répliqua Stubb, qui s'empressa de grimper sur le pont. Une scène singulière s'offrit alors à ses regards. Les marins en bonnet de laine rouge apprêtaient les lourdes caliornes destinées à hisser les baleines. Mais ils travaillaient assez lentement, parlaient vite et semblaient de méchante humeur. Ils avaient le nez pointé vers le ciel, comme autant de bouts dehors. De temps à autre, par petits groupes, ils abandonnaient leur ouvrage et envolaient au sommet du mât pour respirer un air plus pur. Certains, pensant qu'ils allaient attraper la peste, trempaient un tampon des toupes dans le goudron et le portaient à leurs narines. D'autres, après avoir cassé le tuyau de leur pipe au ras du fourneau, exhalaient vigoureusement des nuages de tabac qui, de la sorte, emplissaient continuellement leurs organes olfactifs. Un torrent de hurlements et d'appréciations qui venait de Water Closet, du capitaine, sous la dunette, intrigua Stubb. Tournant les yeux dans cette direction, il vit surgir dans l'entrebâillement de la porte un visage courroucé. C'était le chirurgien au supplice, qui, après avoir protesté en vain contre les opérations menées durant le jour, s'était réfugié dans ce qu'il appelait le cabinet du capitaine pour éviter la pestilence, mais ne pouvait se retenir de lancer de temps en temps supplications et cris indignés. Prenant bonne note de tout ce qu'il voyait, Stubb n'en augura rien que de très favorable à ses desseins et, se tournant vers le marin de Guernsey, eut avec lui un petit brin de conversation au cours de laquelle l'officier étranger lui exprima sa haine de l'ignorant prétentieux qu'était son capitaine, qui les avait tous mis dans une mélasse aussi peu ragoûtante que peu rémunératrice. Le sondant avec prudence, il comprit aussi que, pour ce qui touchait à l'ambre gris, l'autre n'en avait pas le moindre soupçon. Il resta donc muet sur ce chapitre, mais pour le reste, parla sans réserve et avec une telle franchise que les deux hommes eurent tôt fait d'élaborer un petit plan pour circonvenir et ridiculiser le capitaine sans que celui-ci songe à se défier et ridiculiser le capitaine de leur sincérité. Le stratagème prévoyait que le marin de Guernsey, sous le couvert de son rôle d'interprète, dirait au capitaine que ce que bon lui semblait, mais comme au capitaine venant de Stubb, qui, pour sa part, débiterait toutes les sornettes qui lui passeraient par la tête durant l'entretien. La victime désignée sortit alors de la cabine. L'homme était de petite taille, brun, de peau et d'apparence, frêle pour un commandant de bord. Il portait cependant des favoris, une moustache bien fournie. Il était vêtu d'un habit en velours, de coton rouge et de breloques Stubb fit poliment présenter à ce... Stubb fut poliment présenté à ce distingué personnage par le marin de Guernesey qui secoula aussitôt une ostentation dans sa fonction d'interprète. « Que vais-je lui dire pour commencer ?» demanda-t-il. « Eh bien, répondit Stubb en promenant son regard sur la vaste velours, la montre et les breloques, « vous pouvez commencer par lui dire qu'il me paraît un peu gamin, bien que je ne prétende pas m'ériger en juge. » Il dit « Monsieur », traduisit l'autre en se tournant vers son capitaine, que pas plus tard qu'hier, son navire a été hélé à un vaisseau dont le capitaine et le second, ainsi que 6 marins, sont morts d'une fièvre causée par une baleine soufflée qu'ils avaient amarrée. Le capitaine tressaillit et exprima son impatience d'en entendre davantage. « Et maintenant ?» s'enquit le second. « Eh bien, puisqu'il réagit ainsi, dites-lui qu'après l'avoir soigneusement reluqué, je suis tout à fait persuadé qu'il n'est pas plus apte à commander un navire baleinier qu'un singe du Cap-Vert. En fait, dites-lui de ma part qu'il est un babouin. » Il jure sur l'honneur, monsieur, que l'autre animal, le cachalot desséché, est bien plus dangereux que la baleine soufflée. Bref, monsieur, il nous conjure, pour notre salut, de larguer ces poissons. Sans attendre un instant, le capitaine se précipita à l'avant et, d'une voix forte, ordonna à ses hommes de cesser de hisser les caliornes et de détacher les câbles et les chaînes qui maintenaient les baleines contre le flanc du navire. « Et maintenant ?» interrogea le marin de Guernesey lorsque la capitaine fut revenue. « Voyons, laissez-moi réfléchir. »« Oui. » »« Vous pouvez lui dire que, à la réflexion, dites-lui que je l'ai roulé. » Et, en aparté, « lui et un autre peut-être. » Il dit, monsieur, qu'il est très heureux de vous avoir rendu service. À ces mots, le capitaine jura que c'était eux, lui-même et son second, qui devaient se sentir reconnaissants, et y conclut en invitant Stubb à venir boire une bouteille de vin de Bordeaux dans sa cabine. Il aimerait que vous buviez un verre de vin avec lui, traduisit l'interprète. Remerciez-le chaleureusement, mais dites-lui qu'il est contraire à mes principes de trinquer avec l'homme que j'ai filouté. Soyez sérieux. Dites qu'il faut que je parte. Il dit, monsieur, que ses principes lui interdisent de boire, mais que si monsieur souhaite vivre un jour de plus pour boire, monsieur aurait tout intérêt à mettre ses 4 pirogues à la mer et à déborder de ses baleines, car avec un calme pareil, elles ne s'éloigneront pas toutes seules. Stubb avait déjà enjambé le bastingage et regagné sa baleinière, d'où il héla le marin de Guernesey, lui expliquant qu'il avait une longue touée à son bord et ferait tout son possible pour les aider en halant la plus légère des 2 baleines. Ainsi, pendant que les baleinières du Français remorquaient dans un sens, Stubb éloignait complaisamment son cachalot dans la direction contraire, laissant avaler, avec ostentation, un cordage d'une longueur exceptionnelle. La brise se leva bientôt. Stubb feignit de larguer son cachalot et le Français, qui avait hissé ses pirogues, prit rapidement de la distance tandis que le Pequod se glissait entre lui et le gibier de Stubb. Celui-ci fit aussitôt force de rame vers le cadavre flottant et, ayant fait connaître ses intentions au Pequod, entreprit de récolter les fruits de sa fourberie. Il saisit la pelle tranchante de la pirogue et se mit à creuser un peu en arrière de la nageoire latérale, et on eût dit qu'il ouvrait une cave dans la mer, et lorsque sa pelle heurta enfin les côtes décharnées, on aurait cru le voir dégager de la grâce d'Angleterre, des tuiles et des poteries de l'Antiquité romaine. L'équipage, au comble de l'excitation, aidait fiévreusement son chef avec l'impatience des chercheurs d'or. Pendant tout ce temps, des nuées de volatiles criaillaient et pillaillaient. Au-dessus de leur telle, plongeaient, se battaient autour d'eux. Le découragement semblait gagné, Stubb d'autant que l'abominable odeur devenait plus forte, quand soudain, du sein même de cette pestilence, s'échappa des exhalaisons fétides, sans se laisser absorber par elles. Comme un fleuve qui jette ses eaux dans les eaux d'un autre, puis les roule un temps à ses côtés sans se mélanger à elles. « Je l'ai !» cria Stubb, transporté de joie. Il frappa quelque chose dans les régions souterraines. « Un sac !» La chance appelle, il plongea ses deux mains à l'intérieur et sortit des poignets d'une substance qui ressemblait à du savon de Windsor ou un fromage vieux, marbré et, de surcroît, onctueux et savoureux. Le doigt s'y enfonçait facilement et sa teinte était à mi-chemin entre le jaune et le gris cendré. Et cela, mes bons amis, c'était de l'ambre qui, se vend une guidée d'or, l'once dans n'importe quelle droguerie. On en récolta 6 poignées. Mais il s'en perdit beaucoup plus, inévitablement, dans l'océan. Et l'on eût pu en retirer bien davantage encore s'il n'avait retenti la voix forte et impatiente d'Akab qui commandait à Stubb d'en finir et de remonter à bord, faute de quoi le navire lui ferait ses adieux à lui et à son équipage.